Bonjour à chacun. C'est toujours un plaisir de venir dans votre coin de pays, même s'il pleut. Je crois que cette année, tout le monde a bien été arrosé. Je vais continuer dans la même lignée que j'avais donné le dernier message, de parler de Jésus et des miracles qu'il a accomplis. Je vous avais dit à ce moment-là que les miracles de Jésus n'étaient pas son premier but. Il n'était pas venu pour faire des miracles, contrairement à ce qu'on croit. Il était venu pour enseigner, pour annoncer le royaume de Dieu. Et les miracles n'étaient que les confirmations des messages qu'il donnait. Alors je crois que souvent on se trompe un tout petit peu sur la nature de Jésus et qu'on pense qu'il était le faiseur de miracles seulement. Et ça, même lui le dira, je ne suis pas venu pour faire des miracles, mais pour annoncer le royaume de Dieu. Et pour que cette prédication-là soit confirmé, il a accompli certains miracles, mais Jésus n'a pas guéri tous ceux qu'il a rencontrés. Alors, ce matin, je vais parler d'un miracle particulier en demandant à Dieu que, au fur et à mesure que j'expliquerai ce miracle, notre vision se porte plus haut, plus loin que simplement notre situation à nous, notre situation personnelle, et que nous découvrions ce que Jésus essaye de nous faire comprendre par ce miracle. Je vais lire une histoire que tout le monde connaît, et vous allez voir qu'il y a tellement d'enseignements dans cette histoire. C'est celle de cette femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, que Jésus va guérir au milieu de la foule. Et je lis dans Marc, au chapitre 5, je lis à partir du verset 24. Ce miracle s'est fait, j'allais dire, au milieu d'un autre miracle. Quelqu'un était venu pour dire, c'était le chef de la synagogue, que son enfant était malade et il attendait que Jésus vienne. Et puis une grande foule le suit, et dans cette foule, il y a cette femme. Jésus s'en alla avec lui, donc le chef de la synagogue, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait sans attirer aucun avantage. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, « Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son cœur qu'elle était guérie de son mal. Jésus ressentit aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Seigneur, tu vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » C'est une histoire bien connue. Mais pour bien la comprendre, je crois qu'il faut d'abord se pencher un tout petit peu sur la situation de la femme à l'époque de Jésus. Et en particulier sur la situation de cette femme dont Marc nous parle ce matin. Alors je vais souligner trois questions. Vous allez dire que ces questions sont un peu bêtes. Vous verrez pourquoi. La première, qui a été guéri? Tout le monde dit, ça saute aux yeux, c'est une femme. Deuxième question, quelle était la maladie de cette femme? Là encore, ça saute aux yeux. Elle était atteinte d'une perte de sang. Et comment a-t-elle été guérie? Elle a touché Jésus. Donc, trois questions qui n'en sont vraiment pas, mais qui pourtant vont nous apprendre quelque chose de nouveau. Je crois que quand on pose la question qui a été guérie et qu'on répond une femme, ça nous semble tout naturel, ça n'était pas du temps de Jésus. Et c'est pourquoi je veux dire quelques mots sur ce qu'était la condition de la femme au temps de Jésus. Il faut rappeler tout d'abord que la femme n'était pas une esclave comme dans les pays voisins d'Israël. Et des commentateurs pensent que c'était parce que dans le pays d'Israël, le travail était quelque chose de noble, et le travail manuel en particulier. Les maris labouraient, cultivaient, ils étaient des menuisiers. Il y avait beaucoup de travaux manuels à cette époque-là. Et c'est vrai que la femme se consacrait surtout et avant tout aux travaux ménagers, cuisine, ménage, tissage, éducation des enfants. C'était bien la femme au foyer. Mais elle avait un dénominateur complet avec son mari, tous les deux travaillaient. Et ça, c'était quelque chose d'extraordinaire dans ce temps-là, parce que ça lui donnait une certaine dignité qui n'existait pas, je le rappelle, dans les autres pays. Mais il y avait quand même des barrières pour ces femmes. Et il y avait des barrières qui prouvaient qu'elles étaient inégales à l'homme. Et je vais en citer trois de ces barrières qui vont nous faire mieux comprendre le sens profond de cette guérison. La première barrière, dans ce temps-là, l'homme seul pouvait répudier sa femme. Il pouvait écrire une lettre pour la répudier. La femme n'avait pas le droit de le faire. On sait que Jésus avait dénoncé cette pratique dans Matthieu 19, les versets 1 et suivants, dans Marc 10, les versets 1 et suivants. Et on sait que les pharisiens ont souvent tendu des pièges à Jésus sur cette question-là, et en particulier sur cette question du divorce, puisqu'ils posent cette question à Jésus. Pourquoi alors Moïse a-t-il commandé à l'homme de remettre à sa femme un certificat de divorce quand il divorce d'avec elle? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de divorcer d'avec vos épouses. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Notre première réaction en lisant ce verset, c'est de penser que Jésus défend l'indissolubilité du mariage. Mais je crois qu'il défend en premier la dignité de la femme, qui a été créée à l'égal de l'homme. Si on se reporte dans les versets de la Genèse, on se rend compte que tous les ordres que Dieu donne à l'être humain sont au pluriel, vous, vous et vous. Il n'a pas donné seulement des ordres à l'homme, mais au couple tout entier. Et finalement, à cause de cela, les deux restent indissolubles, la femme ayant été créée à l'égal de l'homme pour être son complément. Et Jésus veut essayer de faire sauter cette barrière. Il a sans doute d'autres intentions, mais ça, c'en est une, et une importante. La seconde barrière, c'est que, en règle générale, à part quelques exceptions, les femmes n'avaient pas le même droit de s'approcher de Dieu que les hommes. En tout cas, pas directement. Elles pouvaient y parvenir par l'intermédiaire de leur mari ou d'un prêtre. Le mari jouait le rôle de la prêtrise dans la famille. Et cette barrière, elle est visible dans le temple de Jérusalem où la cour des femmes est très éloignée. Elle est plus éloignée du temple que la cour des hommes. Ils n'avaient pas le même accès. Cela apparaît aussi dans le livre des Proverbes, où la plupart du temps, ce sont les garçons qui sont interpellés. Vous allez me dire qu'il y a le dernier chapitre qui parle des actions de la femme, mais si vous remarquez bien, elle fait tout ça pour son mari et sa famille. Donc, quelque part, dans le temps de Jésus, on est dans un cercle assez particulier. Et là encore, Jésus va détruire cette barrière. Vous connaissez tous Marthe et Marie, où seule Marie perçoit cette nouveauté de s'asseoir au pied du maître pour comprendre son enseignement, alors que Marthe veut la ramener au fourneau. Dis-lui de m'aider. Et Jésus dira, elle a choisi la bonne part. Vous voyez bien que le conflit est sous-jacent dans ce temps-là. Et que pour Jésus, ça n'était pas facile. Et c'est dans ce contexte socio-culturel que se déroule cette histoire. Et gardez tout ça dans un coin de votre mémoire alors que je continue à parler de ce miracle. La femme, c'est encore elle qui auront les premiers la révélation de la résurrection de Jésus. On oublie. Et vous connaissez la réaction des disciples au discours des femmes qui viennent annoncer cette résurrection. Luc 24, 11 nous rapporte la pensée profonde des disciples, qui sont celles des hommes de cette époque-là. Ces paroles leur apparurent comme une niaiserie, ou absurde, ou comme un délire, ou elles dirent n'importe quoi, rêverie et radotage. J'ai cherché dans diverses versions différentes pour savoir quels étaient les mots employés, je viens de vous les citer. Ça, c'était la vision des hommes concernant ce que pouvaient dire les femmes. Et c'est vraiment dans ce contexte-là que va se dérouler ce miracle dont je vais parler. Jésus ne va pas agir seulement pour les hommes, il va aussi agir pour les femmes, et cela sans intermédiaire. Et ça m'amène à la deuxième question, mais quelle était la maladie de cette femme? Alors, peut-être vous n'y avez pas pensé, mais cette maladie, c'est qu'elle était impure, impure. Elle n'avait pas le droit de se trouver au milieu de la foule. Elle n'avait pas le droit de toucher quelqu'un. Elle communiquait son impureté. Et ça, c'est la troisième barrière, le sang. Ce sang qui s'écoule la rend impure, la met au rebut, la rend méprisable et la coupe de toute la communauté, de toute communication avec ses semblables. En plus, je l'ai lu tout à l'heure, elle a perdu tous ses biens, elle a beaucoup souffert, son état avait empiré, et on peut dire que vraisemblablement, son mari l'avait rejetée. Et ceci d'une façon tout à fait légale. Je lis un bref passage dans le livre du Lévitique qui marque cette gravité. Lévitique 15 et verset 25 et suivant. Si une femme a des pertes de sang pendant plusieurs jours en dehors de la période de ses règles ou au-delà du temps normal de son indisposition, elle sera impure tout le temps que durent ses pertes, comme au temps de ses règles. Tout lit sur lequel elle se couchera pendant le temps que durent ses pertes et tout meuble sur lequel elle s'assiera seront impurs, comme dans le cas de son indisposition. Quiconque les touchera sera impur. C'est ainsi que vous tiendrez les Israélites à l'écart de tout ce qui pourrait les rendre rituellement impurs et les exposerait à être frappés de mort s'ils venaient à rendre impur mon tabernacle qui est au milieu d'eux. » En un mot, la maladie de cette femme est une maladie très à la mode aujourd'hui. Ça s'appelle la discrimination. La discrimination. Et j'ai regardé la définition de ce mot dans le dictionnaire. L'action d'isoler et de traiter différemment certains individus. Vous voyez bien que cette maladie existe toujours. Est-ce qu'il nous arrive de traiter tous ceux que nous voyons, que nous rencontrons, qui nous sont inconnus, d'une façon différente de ceux que nous connaissons? Alors, nous faisons de la discrimination. Et cette discrimination conduit alors à la ségrégation qui prive les personnes de certains droits à l'intérieur de leur collectivité. Vous voyez que cette guérison est quelque chose de beaucoup plus grand que ce qu'on croyait. Il s'attaque à un problème extraordinairement fort en Israël dans ce temps-là, cette discrimination qui faisait qu'il y avait des gens qu'on mettait sur le côté parce que Dieu l'avait ordonné. Alors ça pose beaucoup de questions, cette guérison. Et je vais parler un petit peu de cette guérison. On pense qu'elle a fait un acte de foi. Bon, c'est beaucoup plus que cela. C'en était un vis-à-vis de Jésus. Elle avait entendu parler de lui. Et ce qu'elle avait entendu la pousse à faire ce geste. Et voici ce que dit le verset 28 que j'ai lu. « Si j'arrive à toucher au moins ses vêtements, je prends la traduction de la Tobe, je serai sauvé. » Pas guéri, sauvé. Et cette femme, quand elle s'approche de Jésus, prend un risque inconsidérable. Parce que son geste est révolutionnaire, elle enfreint directement la loi de Dieu, et ouvertement. Un geste de défi de la part de cette femme qui bouscule les lois, qui bouscule les interdits, qui bouscule la discrimination, qui bouscule la ségrégation. Vous vous rendez compte de cela ? On n'y pense pas assez quand on lit ces miracles. On voit simplement une femme, elle le touche, on fait le guérir. Oh, ben c'est formidable. Il y a tellement plus que cela. Tellement plus pour nous rappeler que quand nous voulons bouleverser certaines façons de comprendre et de vivre de nos concitoyens, c'est pas toujours facile. Finalement, ce défi à la société, à la loi, à Moïse, et finalement à Dieu, parce qu'elle enfreint la loi de Dieu, non seulement elle aurait dû se tenir à l'écart, mais elle devait s'abstenir de toucher cet homme, ce rabbi, ce maître dont elle a entendu parler, parce qu'elle lui communique son impureté. Oh, moi je trouve cette histoire extraordinaire. Parce que Jésus se laisse faire et il va contre tout ce qui était établi dans son temps. Et c'est cette confiance à Dieu, au Christ. C'est une, comme le dira l'apôtre Paul, une espérance contre toute espérance. Elle jouait son va-tout. Elle pouvait être lapidée sur place. Et elle va prendre le risque pour être sauvée. Ou, mes amis, quand on lit ça, on se trouve en face d'un scénario dont on n'avait pas du tout l'impression que c'était quelque chose d'extraordinaire. Elle a deviné que cet homme, ce rabbi, n'était pas comme les autres. Il ne dressait pas des barrières entre les hommes, il les faisait disparaître. Vous voyez cette image extraordinaire ? Alors je vais appliquer cela à notre société. Il y a aussi bien des barrières dans nos vies, dans notre société. Des barrières qui nous isolent, qui nous barricadent parfois dans notre propre justice. Des barrières qui enferment les autres dans une catégorie que nous avons trouvée pour eux. Ça peut être malheureusement le cas aussi dans nos églises. Pas seulement dans le monde, parce qu'il y a parfois beaucoup de barrières entre nous, chrétiens. Ils ne pensent pas comme moi, ils ne prient pas comme moi, ils ne réfléchissent pas comme moi, et il est catalogué. Et nous sommes tombés dans la discrimination. Tous les versets qui nous ont été lus ce matin parlent de ce corps de Christ et de ce qui en fait sa force. Alors, pour nous, c'est de cette même confiance que nous avons besoin, de savoir que Dieu m'accepte comme je suis. Quelle que soit la loi qui m'exclut ou me condamne. Alphonse Maillot a dit: il faut remarquer que c'est cette femme qui prend l'initiative avec un culot qui nous est difficile d'imaginer. Dans bien des miracles, l'initiative est venue des patients qui précisément ont refusé de patienter. Ah, mes amis, est-ce que nous continuons à patienter parce que ça a toujours été comme ça? Ou est-ce que nous avons le culot de faire tomber certaines barrières qui peuvent se dresser entre nous et ceux que nous côtoyons? Alors, qu'est-ce que nous attendons? Voyons un peu comment Jésus a guéri cette femme. pour être complet, il nous faut encore jeter un regard du côté de Jésus. Vous avez remarqué qu'il est dit qu'il a senti qu'une force était sortie de lui. Et qu'il se retourne et dans la foule il dit « Mais qui m'a touché ?» Ce qui me frappe, c'est que le regard de Jésus dans cette foule cherche une personne bien déterminée. Il cherchait à voir celle qui l'avait touché. Mes amis, est-ce que vous avez déjà pensé que même si vous vous croyez isolé dans votre coin, ou que vous êtes dans une tellement grande foule de gens qui sont autour de Jésus et que Jésus ne peut pas faire grand-chose pour vous, son regard est capable de vous trouver là où vous êtes, quel que soit l'environnement autour de vous, parce qu'il sait que vous avez besoin de lui. Au milieu de la bousculade, il fait vraiment la différence entre les curieux et les âmes en détresse. Il en va de même dans toutes nos rencontres. Jésus, on le chante parfois, Jésus est au milieu de nous. Et il va faire la différence. Pourquoi sommes-nous là ce matin ? Des curieux, des habitués ou des personnes qui ont faim et soif de quelque chose de nouveau en eux, d'une guérison, d'une libération, de quelque chose qui va faire que ma vie va être transformée. Et puis Jésus se présente encore une fois comme le consolateur. La femme tremble de peur, nous l'avons lu. Elle se jette aux pieds de Jésus et lui dit toute la vérité. C'est normal qu'elle soit tremblante et angoissée, je vous ai dit ça pourquoi tout à l'heure. Si elle s'était trompée, si Jésus, ce Jésus, n'était pas l'homme qu'elle avait espéré, alors elle était condamnée. Mais Jésus s'empresse de jouer son rôle de consolateur. Ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Oh, il y a plusieurs éléments que j'aimerais encore souligner dans ses paroles, plusieurs éléments intéressants. La confiance de la femme se transforme en foi. Avant, elle avait juste « j'espère que ça va aller ». Et cette confiance se transforme en foi, elle est sauvée. Le mot « va en paix » semble dire « Même si tu as eu tort aux yeux des hommes, Dieu qui regarde au cœur te donne raison. » La preuve, c'est que la paix qu'il te donne va remplacer l'angoisse qui t'étreignait. Moi, je trouve ça tellement magnifique. Matthieu, qui donne le même récit, ajoute une toute petite note qui me semble importante. « Prends courage, ma fille, ta foi t'a sauvée. » Cette appellation « ma fille » est un encouragement prodigieux. Pour Dieu, devant qui il n'y a plus ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme, ni pur, ni impur, il y a seulement des enfants de Dieu et un papa qui est là pour nous consoler et pour nous conseiller. Un papa qui accueille et non pas une loi qui exclut. Un dernier élément qui ne se trouve pas dans ce texte, mais qui doit venir à nos pensées quand nous le lisons. C'est les paroles de Jésus qui dit « Ne pensez pas que je sois venu pour supprimer la loi de Moïse ou l'enseignement des prophètes. Je ne suis pas venu pour la supprimer, mais pour leur donner tout leur sens. » Encore une fois, Alphonse Maillot va préciser, en voyant surtout le miracle, le prodige, on risque de délaisser le message. Le sens de la loi et du commandement dans cette histoire, c'est de nous rappeler que par nature, nous sommes tous impurs. C'est David, dans le psaume 51, qui le dit, « Je suis depuis ma naissance marqué du péché. Depuis quand ma mère j'ai été conçue, le péché est attaché à moi. » Et le commandement de Dieu est là pour nous rappeler cette leçon extraordinaire. Il n'y avait pas que cette femme d'impure. Toute la foule y était. Et nous y sommes tous aux yeux de Dieu. Mais pour chacun d'entre nous, il a la même attitude qu'il a eue envers cette femme. Et pour que cette femme soit sauvé, guéri, il a fallu que Jésus prenne sur lui la condamnation de la loi. La loi condamnait à mort ces impurs. Alors Jésus a dit, « Je prends sur moi votre impureté et je meurs pour que vous soyez sauvés. » Ça, c'est tout l'Évangile. Et c'est ça, cette guérison, pour nous rappeler cette chose extraordinaire que ce Dieu, sans péché, a envoyé son Fils et que lui a pris sur lui notre impureté. Et le voilà, le message de ce miracle. Et en conclusion, j'aimerais donner deux réflexions. Premièrement, ne nous trompons pas de miracle en ne voyant que le prodige qui s'accomplit. Le vrai miracle dans cette histoire, c'est que tous les impurs, les déçus de la vie, les malades, ceux qui souffrent de la discrimination, ceux qui sont mis de côté, peuvent devenir des enfants de Dieu à part entière. Et Dieu peut nous dire à chacun d'entre nous, « Mon fils, ma fille, est-ce que nous entendons cette voix ou est-ce que nous croyons toujours être des exclus ?» Rappelons-nous que l'apôtre Paul a dit que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. C'est le message que nous devons proclamer en l'actualisant à notre temps. C'est ce que nous dit encore une fois Paul, insiste en temps et hors de temps, ou insiste que l'occasion soit favorable ou non. Mais la deuxième réflexion et la dernière, c'est que le prodige, le miracle, c'est ce qui rend crédible le message. C'était important pour Jésus qui devait simultanément montrer qu'il avait le droit de dire ce qu'il disait, qu'il avait le droit de bousculer les barrières, de faire aussi ce qu'il disait. Oh, si Christ n'était venu qu'avec un message, mais sans miracle, il n'aurait pas été dangereux. Ça n'aurait été que les paroles d'un doux rêveur, on l'aurait laissé causer. Mais je vous rappelle que c'est ces guérisons qui confirment le message, qui rendent ses ennemis furieux. C'est ce qu'on lit dans Marc au chapitre 3, les versets 5 à 6. « Profondément attristés par la dureté de leur cœur, Jésus dit à l'homme, étends la main. Il l'attendit et elle fut guérie. » Écoutez bien la suite. « Aussitôt les pharisiens sortirent de la synagogue et allèrent se concerter avec des membres du parti d'Hérode sur les moyens de faire mourir Jésus. » Le discours ne suffisait pas. Il était venu pour ce discours, mais il fallait qu'il soit confirmé par des choses concrètes. Ô Seigneur, que dans nos vies, nous n'ayons pas seulement des discours. Rappelez-vous de la petite histoire qu'on a lue ce matin. Est-ce que déjà des gens nous auraient dit, « Est-ce que t'es Jésus ?» C'est impressionnant. Mais c'est ça le miracle. Des actes qui confirment nos paroles. Le monde a assez de gens qui disent des paroles plus ou moins belles. Mais des gens qui font ce qu'ils disent, ça c'est tellement important. Mais je rappelle, cela risque de nous coûter cher. Y sommes-nous prêts ? Prions. Seigneur, merci parce que tu n'avais pas seulement des théories. Tu avais des choses concrètes. Et pour cette femme exclue de la société, condamnée par la société, elle a trouvé un frère. Elle a trouvé un père. Elle a trouvé le salut, la guérison, une nouvelle vie. Ô Seigneur, nous aimerions tellement que notre message puisse toucher les cœurs de la même façon. Que ce ne soit pas simplement des paroles. Oh, pardonne pour toutes les fois où nos paroles ne sont pas suivies d'actes concrets. Et fais-nous la grâce que là où nous sommes, nous soyons tous un reflet du Seigneur Jésus. Amen.